Alors, donc on va faire le, on est à la page 5, on va prendre le 12e principe. D'accord? Davar alamed minyano ve davar alamed misofo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, pour comprendre un pasouk de la Torah, il faut voir les psukim avant et les psukim après de quoi il parle. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce que le pasouk voulait dire. Donc on appelle ça littéralement davar, une chose, alamed, qu'on comprend, qu'on étudie, meignano, en regardant meignano, en regardant le concept, en regardant le contexte autour. On va donner un exemple tout de suite. Dans la Torah, l'interdiction de voler est écrite à deux reprises. D'accord ? Première fois, dans les 10 commandements, en fait, 3 reprises, parce que les 10 commandements sont répétés 2 fois. Première fois, c'est écrit dans les 10 commandements. C'est écrit « lo tirtzach », tu n'as pas le droit de tuer, donc tu n'as pas le droit de commettre d'homicide, « lo tinaf », l'adultère est interdit aussi, et « Lotignov, tu ne voleras pas. D'accord? Ça, c'est un premier pasouk. Il y a un autre pasouk dans la paracha Kedushim qui dit Lotignovu, vous ne volerez pas. Velotechachashu, d'accord? Donc, on n'a pas le droit non plus donc, de faire de dénégation. Velotechakeru, ishva amito, et on n'a pas le droit de causer de préjudice chacun à son prochain. Donc, la Torah a répété 2 fois le terme de Gneva. Le problème, c'est que Gneva en hébreu, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire voler de l'argent. Mais à l'époque, malheureusement, c'est assez fréquent, ça peut vouloir dire aussi un rapt. Voler une personne, ça s'appelle aussi Gneva. Et la question qu'on se pose, c'est quel pasouk parle de quoi? Parce que la Torah ne se répète pas. Bon, les 10 commandements sont répétés 2 fois. Ça, d'accord, dans Devarim, on répète. Mais la Torah ne se répète pas. Si la Torah répète à 2 reprises l'interdiction de voler, ça veut dire qu'elle parle de 2 choses différentes. Qu'est-ce qu'explique la Gemara sur ça dans le traité Sanhedrin? Elle dit que le Lotignov des 10 commandements, il ne parle pas du vol d'argent. Il parle de rapt. Et le Lotignovu de la paracha Kedoshim, lui, il parle de vol d'argent. D'où on a appris cela? Pourquoi pas le contraire? Là, on a un exemple concret de Davar Alamed Meignano. D'une chose que le pasouk Lotignov, à la base, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Pas voler, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Voler une personne, voler un homme, voler un objet, ça veut dire quoi? Donc on a dû chercher le contexte. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans le contexte? Dans les 10 commandements, qu'est-ce qui est écrit juste à côté? Lo tirtzach, ne pas tuer. Est-ce qu'on peut tuer de l'argent? On tue un homme. Donc de là on a compris que quand 4 mots plus tard c'est écrit Lo tignov, tu ne voleras pas, de quoi on parle? On parle également de voler une personne. D'accord? Parce qu'on a suivi le contexte du pasouk. C'est vrai que le Lotignov aurait pu vouloir dire voler de l'argent, mais comme dans le contexte de quoi parlait le pasouk parlait de tuer une personne, d'adultère aussi, c'est des choses qui sont liées entre les hommes. Donc de là, on a compris que le Lotignov veut dire aussi voler une personne. Maintenant, si je prends le deuxième pasouk de la paracha Kedoshim, là-bas, de quoi il parle juste après? Il te parle de là-bas, de ne pas mentir, de ne pas frauder. Donc c'est logique que dans ce cas-là, si on parle de mensonge et de fraude, quand on parle de vol, de quel vol on parle? On parle de vol d'argent.
Non, mentir, ça peut être aussi l'adultère.
On parle de frauder juste après. Lotignovu, lotechachashu. Juste après lotignovu, c'est écrit ne pas dénégation, ne pas mentir, ishbamito. On parle de fraude ici. D'accord? Lotechachashu, lotechekoru, ishbamito. C'est l'explication de. Vous avez la traduction juste en dessous.
Et c'est quoi le prochain? Comment on utilise le prochain?
En fait, ça veut dire que le verset est dans son contexte.
Le verset, ça veut dire lotechachashu, c'est dénégation. D'accord? Lotechakeru, c'est un mensonge qui est une fraude. Ishbamito, une personne envers son ami. Ça veut dire que dans le pasouk des 10 commandements.
Ça peut pas être l'adultère, ça.
Bah oui, c'est pas l'adultère.
Ah non.
Parce que.
Une femme qui trompe son mari,
ça peut être
aussi.
Ça peut être aussi l'adultère, mais c'est pas spécifiquement l'adultère. On parle plus d'une fraude. On sait qu'il y a 2 psukim. Si la Torah a répété à 2 reprises, un il parle de rapt, et l'autre il parle de larcin. On sait que c'est 2 psukim.
Où tu vois l'adultère dans tout ça, alors toi?
C'est d'un premier pasouk.
Lequel?
Lotinaf. C'est l'adultère. Noef, c'est un adultère en hébreu.
Et prochain, c'est quoi? Comment tu définis le prochain?
Son prochain?
Ça, bah oui, mais c'est ça tout le truc. Bah oui.
Quand tu veux voler un goy? Ah, j'attendais la question.
C'est toi qui l'as dit. Non, mais comment tu définis le prochain?
Ah oui, c'est une question.
Comment... C'est qui l'autre? C'est le juif? On parle du juif là ou on parle du goy?
Non, mais... Amito, c'est... Alors, en général, la Torah, elle parle de Achiv.
Les 10 commandements, ils sont pour qui?
Parce que je comprends. Non, c'est pas les 10 commandements, ça.
Non, mais quand on parle du prochain, aimer son prochain...
C'est une erreur que beaucoup de gens font. Le Lotignov dans les 10 commandements, ce qu'on vient d'expliquer, il ne parle pas du vol d'argent. Vous avez dit l'otignov, ah, j'ai volé de l'argent. Ça parle pas de l'argent, non. ça parle d'arabe.
Mais quand
l'interdiction de voler de l'argent, c'est dans la paracha Kedoshi. Faut suivre le contexte.
Aimer son prochain comme soi-même.
Il faut suivre le contexte. Dans le contexte, on parle de... Juste, je repasse à quelques secondes. Dans le contexte, on parle de tuer quelqu'un. Donc dans ce cas-là, le lotignov veut dire voler quelqu'un.
Arabe, c'est prendre des esclaves.
Oui. Ouais. Prendre quelqu'un, le vendre en tant qu'esclave. Hein, je réponds à ta question.
Aimer son prochain.
La Torah en général, pour parler d'un juif, elle emploie le terme frère ou ami.
Pas prochain.
Là, amito, c'est presque confrère. Donc c'est...
Amito, c'est plus qu'ami.
Amito, c'est plus qu'ami.
C'est un mytho.
C'est un ami mytho.
C'est des mythos, t'as le droit de les voler, des mythos.
Mais après, juste après.
Oui, non, mais sa question qu'il pose, c'est est-ce que c'est inclus dans ce pasouk-là ? C'est interdit de toutes les façons, attention. On soit d'accord. Ta question, c'est est-ce que ce pasouk parle de ça ou pas ?
C'est compliqué, sans rigoler, c'est compliqué.
C'est un Rambam qui dit ça, c'est clair.
Mais on peut pas s'autoriser à voler un non-juif.
C'est bien sûr que c'est interdit.
C'est pour ça que je veux que
c'est n'importe quoi, c'est du bluff.
D'accord ?
Je voudrais juste... Bon, je voudrais juste terminer de répondre à la question, d'accord ? Voler un non-juif, messieurs, s'il vous plaît. Écoutez ce que je veux dire. Voler un non-juif, c'est assourd exactement comme voler un juif. La seule différence, c'est que si c'est une erreur,
la TVA.
Si c'est une erreur,
c'est pas un non-juif. Oui, c'est ça.
Tu ne réclameras pas. Une erreur, voilà.
C'est rien du tout.
La TVA et le CO2, bon, comme c'est de la pollution, on a droit.
La seule, et les pompes à chaleur. Alors,
c'est une personne morale.
Pompes à chaleur, c'est non, pour
et
les bébés.
Si CO2, c'est fini. Une société, une SA. C'est pas une personne.
Alors, laissez-moi répondre. Dis le Rambam, la seule différence qu'il y a entre un juif et un non-juif, c'est que s'il y a une erreur, par exemple, le caissier a fait une erreur, ou bien, bon, t'as une société qui a fait une erreur, si c'est un juif, tu dois lui rendre. Si c'est un non-juif, tu n'es pas obligé de lui rendre, mais tu fais une mitzvah si tu le rends.
Donc il y a une différence entre juif et non-juif.
Il y a une différence.
Il
y a une erreur.
C'est pas une personne.
Tu viens de dire le contraire juste avant.
Que je sache, la TVA, c'est pas une erreur.
Tu viens de dire c'est pas une personne.
Attends, juste deux secondes. Je voulais rajouter encore un détail. Pousser quelqu'un à faire une erreur, par exemple, t'as un truc qui vaut 1000 euros et tu vas lui vendre 10 000 euros, tu vas lui faire croire qu'il vaut 10 000 euros, c'est du vol ça aussi.
Pourquoi ?
Parce que c'est pas une erreur qu'il a fait l'autre, tu l'as poussé à faire cette erreur.
Le prix est relatif.
Non. C'est un mensonge.
Alors tu fais plus le bénéfice.
Surtout mentir.
Alors le bénéfice,
c'est pas de l'argent sur lequel elle a braqué.
Non, mais tous les commerçants montrent puisque
le produit qu'ils
ont payé 1 à 10 ans.
Non, pas du tout. Un commerçant, il montre les qualités d'un produit. Mais un produit qui vaut 1000, si je le vends 10 000 et je te dis qu'il vaut 10 000, je t'ai menti.
Pourquoi ? Mais
il vaut, mais tu dis jamais à un client que le produit...
Ah, les défauts. C'est normal, ça.
Il vaut 1000 et je te le vends 10
000. Non.
C'est pas ça.
Ça, c'est normal. On sait qu'un commerçant, il a une marge. C'est accepté dans le monde qu'un commerçant a une marge.
Alors, le problème,
mais quand c'est une marge de 1000%, il y a un problème.
Ah, donc une marge de 900%, c'est bon ou pas ?
Parce que...
La Torah s'interdit.
C'est quoi une ona, selon la Torah ? Une ona... C'est le jour où le goy va réaliser qu'il s'est fait arnaquer. Même le juif.
Il a déjà réalisé.
Dès qu'il va réaliser, est-ce qu'il va dire bon, c'est normal, c'est les règles du commerce, ou est-ce qu'il va dire je me suis fait arnaquer ?
Il pense toujours qu'il s'est fait arnaquer.
Bon, je refais la parenthèse parce qu'on a quitté le sujet. Là. Vas-y. J'ai pas entendu ta question.
Si c'est une SA, si c'est pas une personne
morale, c'est une
personne. Oui, mais c'est un représentant une personne. Chose. Une personne physique.
Oui.
Tout à l'heure. Je vendrais 10 000.
Est-ce que c'est une norme qui est acceptée qu'on le vend 10 000 ?
Oui.
Attendez, si par exemple c'est un objet rare, c'est accepté que bien qu'à la base il vaut 1000, comme c'est un objet rare, il vaut 10 000.
Mais si tu le dis,
les connaisseurs te diront qu'il vaut 10 000.
Mais sur le marché, je te le vends pas en dessous de 10 000.
De toute façon, le prix est subjectif.
Compris. Si le prix du marché est 10 000,
tu penses à ta Rolex ?
Mais il a raison, ça vaut 1000, je le vends 10 000.
Jamais.
Un commerçant va dire ça vaut 1000, je le vends 10 000.
Ça n'a pas de valeur.
Du moment
bon.
Où quelqu'un t'achète,
il y a un coût,
il a une valeur.
Et après,
c'est vrai pour les abordages.
Ça vaut ce que
les gens ils sont renchérés.
Les commerçants.
Vous savez ce que dit Rambam ? Rambam dit que l'immobilier n'a pas de valeur.
Voilà.
Pourquoi ? Vous savez, vous entendez ça ? Pour ceux qui sont dans l'immobilier. Rambam il dit que. D'accord, je ne sais pas qui est dans l'immobilier. Rambam il dit que l'immobilier n'a pas de valeur. Pourquoi ? Parce qu'il dit en vérité, la terre appartient à tout le monde. Et d'un autre côté, acheter un morceau de terre, ça vaut tout l'or du monde. Donc c'est seulement une convention.
C'est évaluable.
Et donc, il y a des différences à l'Afrique entre l'immobilier et le mobilier. Parce que l'immobilier à l'Afrique, moi, n'a pas de valeur.
Il ne peut pas se reproduire.
Parce que c'est, d'un côté, ça appartient à tout le monde, et d'un autre côté, ça vaut tout l'or du monde. On est d'accord ou pas? D'où les spéculations. Bon, je finis. Donc avec ça, on a fait le 12A. D'accord?
Moi, j'ai une question de poser.
Allez-y. Bon.
C'est complètement lié.
Après, on passe à la suite. Hein.
Très court.
Très bien.
Est-ce que ne pas dire quelque chose, c'est mentir?
Mission.
C'est mission, c'est mentir. La Torah. Pas de...
Non, c'est une bonne question, ça.
L'actualité, on peut pas dire que c'est menti. Non,
ça dépend, ça dépend. Par exemple, regardez.
Il a dit j'ai menti.
Un commerçant qui... je vais essayer d'expliquer le cas. Non.
Non, mais ça dépend le mensonge.
Un commerçant qui vend un produit, qui sait que ce produit a des défauts. Prenez par exemple, vous êtes concessionnaire de voiture. Vous savez que cette voiture a un défaut, mais une personne qui va venir acheter la voiture, vous n'allez pas lui dire « Attendez, avant de bouger, cette voiture a ce défaut. »
Ça dépend du défaut.
C'est accepté
c'est un défaut qui
que il y a des choses que le vendeur ne dit pas, et que si l'acheteur veut trouver les défauts, eh ben il doit chercher. Et...
Moi, je parle en général, pas seulement sur la vente. En général.
Il y a des choses qu'on ne sait même pas
trop.
Non, c'est pas forcément, non. Ça, non, normalement, c'est pas... Je veux dire, si c'est accepté dans le monde que le vendeur ne dit pas, que l'acheteur s'attend à ça... Tout dépend de ce que l'acheteur s'attend à ça. Quand je vais acheter une voiture, je m'attends pas à ce que l'acheteur va me dire elle a ce défaut. Que le vendeur pardon, va me dire écoutez, cette voiture, sur les journaux, les magazines ont dit qu'elle a ce défaut. Je n'attends pas qu'il vienne me le dire. Ça, je vais acheter les magazines pour le voir. D'accord ? Ça, c'est pas son rôle. D'accord. Mais si c'était son rôle de me le dire et qu'il ne l'a pas dit, et par omission, là, c'est un problème.
Comment t'expliques à Gonev, Miganav, Patour, jamais compris ?
Alors, excuse-moi, Patour, Avalassour.
Oui.
D'accord ?
D'accord.
Patour, il est Patour.
Oui. Celui qui vole d'un voleur.
Ah bon
oui.
Il est pas tour. Hein.
Il est pas tour, mais c'est assourd.
Ah oui, mais il est pas tour.
C'est encore pire.
Ça, je vois pas. Mais il est pas tour.
Quand on dit qu'il est pas tour, ça veut dire que. Bon, c'est pas un cours sur le vol aujourd'hui. Hein.
Bah si,
ça veut
dire qu'il est vol. Tu l'as même
oui, d'accord, mais c'est dans les.
Fallait pas encadrer vol.
Bon, on va parler de rap maintenant. On continuera après. Allez, on y va. Hein? Pas tour, mais n'est qu'Eiffel, ouais. Ah bah l'assure, c'est assure de voler. C'est...
Ouais, mais il est pas tour. Alors pourquoi il est pas
il doit rembourser toutes les personnes qu'il a volées. Ok. Il doit rembourser. Bon, donc on a un premier principe qui s'appelle Davar Alamed Meiniano. Ça veut dire que très souvent dans la Torah, pour comprendre ce qu'un pasouk voulait dire, il faut regarder, messieurs, on continue, il faut regarder le contexte. Ça, on a vu ici, le contexte dans les 10 commandements était tuer adultère, donc on a compris que l'otignov veut dire un rapt. Le contexte dans la paracha Kedoshim était la fraude, préjudice, donc de là on a compris que le lotignov est un larcin, est un vol d'argent. Maintenant, on passe au principe suivant, qui est en fait une variante. Davar alamed misofo. Des fois, pour comprendre ce que la Torah voulait dire, misofo, il faut étudier la conclusion d'un cas pour comprendre le cas. Ça veut dire que des fois, avant de comprendre un pasouk, il faut d'abord aller jusqu'au bout du cas où la Torah voulait te dire, et là tu comprends ce que le pasouk voulait te dire. On a un exemple concret. Les relations interdites. Bon, là, j'espère que vous allez me laisser tranquille pour celui-là. Alors, ici...
Alors, proche parent, c'est qui? Est-ce qu'on peut... J'ai une question, dans le mikvé, on peut pas un père avec son fils, il peut pas aller au mikvé.
Alors,
si.
Est-ce que...
Dans un mikvé. Le père avec son fils peut pas aller.
Si, mais faut pas qu'il regarde la
nudité. Non, c'est pas écrit ça, c'est écrit, bon, ça a rien à voir ça, hein.
C'est lui qui va avoir lancé des questions là-dessus.
C'est lui le problème.
On verra après. Non, parce qu'on va parler de dévoiler la nudité de son père. L'interdiction, on dit qu'un enfant n'a pas le droit de voir la nudité de son père. Mais les maassés, concrètement, on dit que si c'est dans le cadre d'un mikvé, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti pour voir la nudité, il est parti pour le mikvé, il y a beaucoup qui permettent. Mais il y a des gens qui font attention à ça. D'accord ? Dans tous les cas, il ne faut pas le regarder directement.
Tu le laisses passer d'avant. Et quand...
Parce que je ne rentre pas au mikvé comme ça.
Salut, c'est moi, bonjour.
Dans ce cas-là, c'est pas que son père, c'est même son rat.
Ouais,
bon. Moi, ça fait des années que je vais au mikvé sans problème. À la yeshiva, on a le mikvé tous les jours. Jamais eu ce problème-là de regarder. C'est une question qui se pose même pas. Après, tout est dans la tête. Bon, on va continuer. Essayez de me laisser tranquille sur celui-là. Alors, Ish El Kol Sher Bessaro. Le pasouk te dit comme ça. Ish, chaque homme, El Kol Sher Bessaro, chez toute personne donc, qui est proche parente, lotikrevu le galot erva, vous n'aurez pas le droit ni de vous approcher, et ni de dévoiler, de découvrir sa nudité. Comme le Khatam Sofer explique, il dit pourquoi la Torah nous dit ici, lotikrevu le galot erva. La Torah ne te parle pas seulement de découvrir la nudité, elle te parle également de te rapprocher, s'il vous plaît, c'est important ce qu'on va dire ici, de te rapprocher pour dévoiler la nudité, ça veut dire que tous les préliminaires, même si on n'est pas arrivé à l'acte, c'est assourd. Il y a des gens qui pensent que l'interdiction, c'est seulement si on passe à l'acte, mais si on n'est pas passé à l'acte, il n'y a pas d'interdit. C'est une erreur. D'accord ? Le tikrevu, dès qu'on s'approche d'une femme interdite, qui nous est interdite, et qu'on a donc, on est karov de cette personne-là, on fait déjà un interdit de la Torah. Bien sûr que si on est arrivé jusqu'à l'acte, c'est encore plus grave. Mais le fait même de se rapprocher, même de sa femme qui est Nida, sa propre femme qui est Nida, d'accord ? D'avoir, de faire des préliminaires qui pourraient amener à ça, c'est déjà un interdit de la Torah. D'accord ? Très important. Si on suit le pasouk, qu'est-ce que te dit le pasouk ? Le pasouk te dit, El kol shir besaro. Le pasouk a dit, kol shir besaro, ça veut dire toute personne qui est proche parente. Ça veut dire que tout est interdit. Ça veut dire que, par exemple, un cousin, une cousine, une tante. Alors, voilà. Si j'avais étudié seulement le premier pasouk de cette paracha qu'on lit aujourd'hui un petit peu, paracha Kedoshim, c'est ça Kedoshim ? D'accord ? Si j'avais étudié que ce premier pasouk, qu'est-ce que j'aurais pu comprendre ? Qu'est-ce que j'aurais pu penser ? Que tout est interdit. Dès que c'est un parent, c'est interdit. Ça veut dire, d'accord ? Ça voudrait dire que même, par exemple, ma femme, c'est assourd. D'accord ? Ça voudrait dire que même ma femme, ça veut dire que ma cousine, c'est interdit. Ça veut dire que même ma cousine éloignée. Bah oui.
Mais les parents éloignés, non ?
Non.
Les gens éloignés, non ?
Qu'est-ce que t'appelles un proche parent ?
La tante, le cousin, machin. Mais alors, une inconnue, t'aurais le droit.
Si t'avais étudié seulement le premier passou, qu'est-ce que j'aurais pu penser ? Non, à part ça, il y a un autre passou pour les femmes mariées.
Non, mais une inconnue pas mariée.
Donc si. C'est... Oui, j'ai compris. Non, mais là, on parle.
Ah oui,
là...
c'est
exactement. Alors, c'est encore une... Mais on avance pas avec sa cousine.
Mais oui, mais...
Sa tante.
Même là, avec sa cousine, on a le droit. Alors, comment comprendre ? Le pasouk t'a dit... Attendez, laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Le pasouk t'a dit, elle colle chez Herbessaro. Le pasouk a dit, on n'a pas le droit de s'approcher, on n'a pas le droit d'avoir des relations et donc de s'approcher. Colle chez Herbessaro, toute proche parente. Alors, comment on fait ? Comment on comprend le pasouk ? Juste après, dans la même paracha, le pasouk va spécifier. Il va dire, Ervat Avira. Tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de ton père. Ervati mecha. Tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de ta mère. D'accord ? De là, on comprend quoi ? La Gemara, elle pose la question, elle dit... Messieurs, si vous voulez, on va expliquer ça, parce que ça, il faut bien comprendre
même
ce principe-là.
Même pour une fille vis-à-vis de sa mère, elle n'a pas le droit ?
Alors justement, la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara dit, mais si, tu m'as déjà dit que le proche parent était interdit, pourquoi tu as besoin de me préciser après et de dire la nudité de ton père est interdite pour une fille, la nudité de ta mère est interdite pour un homme ? Pourquoi tu as besoin de me préciser ça ? Tu m'as déjà dit que la nudité de tout proche parent est interdite. Là, on a un exemple de Davar Alamed Misofo. Que des fois, pour comprendre ce que la Torah voulait dire, il faut aller jusqu'au bout. Il y a un premier passage qui t'a dit « Toute proche parente est interdite ». Mais après, quand tu continues, tu vois que la Torah spécifie. La Torah te dit « Il y a le père, il y a la mère, et il y a la belle-sœur. » La Torah va te préciser. Pourquoi la Torah t'a précisé ? C'est pour te dire que ne t'arrête pas au premier passage qui t'a dit « Toute proche parente », que de ça, tu aurais pu comprendre, par exemple, qu'une cousine est interdite. Il faut aller dans la suite « Davar Alamed Misofo ». Que c'est seulement quand je vais aller jusqu'à la fin de la série de versets que je veux comprendre qu'au début, quand on m'avait dit « proche parente », c'était pas toutes les proches parentes, c'était certains cas.
Ceux qu'ils ont nommés.
Ceux qu'on a nommés.
Seulement.
Ceux qui ne sont pas nommés ne sont pas interdits en tant que proches parents. Ils peuvent être interdits. Oui.
La sœur de ta mère t'a pas le droit.
Oui, la sœur. La Torah donne. Il y a une liste. Il y a une liste très précise que la Torah donne. D'accord. Vas-y.
Pourquoi alors la Torah a eu besoin de préciser dans un premier temps, puisqu'elle a un verbe de propos.
Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est comme ça. La Torah doit être complexe.
Pourquoi c'est parti de la nudité à l'adultère?
Qui a parlé d'adultère?
Tout à l'heure, t'as dit quand tu te rapproches d'une femme, même que.
Non, c'est moi qui ai dit.
Ah, mais c'est rien à voir.
C'est rien à voir avec ce pasouk.
Ah, ouais, je comprends pas le rapport.
Ce pasouk ne parle pas d'adultère. Je réponds à sa question.
C'est parti
ce pasouk ne parle pas d'adultère.
Ouais,
on est d'accord.
C'est parti dedans,
ce pasouk parle de je veux me marier avec une femme, je veux savoir est-ce que j'ai le droit de me marier avec elle ou pas. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit toute proche parent est interdite. Et après, la Torah te dit ton père c'est interdit, ta mère c'est interdit. Qu'est-ce que tu dis, la Gemara? Pour te dire que quel proche parent est interdit. Davar Alamed Misofo, faut suivre la fin du pasouk, faut aller jusqu'à la fin des psukim, de la série de psukim, c'est seulement ceux qui ont été cités par la suite. Ça veut dire que des fois dans la Torah, pour comprendre ce que la Torah voulait te dire, il faut aller jusqu'à la fin. D'accord ? Et enfin, je terminerai avec ce dernier exemple, après toutes les questions que vous voulez, parce que c'est déjà pratiquement l'heure. Alors, Vechen, il en est de même. Schneer Tuvim, Amar... Allez-y. Ah, excusez-moi, il y avait une question. Oui.
C'est pas déjà un cas qu'on a quitté un peu similaire ?
Oui, alors, bonne question.
Oui, c'était...
On a déjà précisé le cas d'un groupe dans les deux sens.
D'un groupe...
On peut partir d'une alors, même spécialité, là. Pour compléter par la suite d'un verset.
Oui, là, bonne question. Sauf que là, on n'arrive même pas à ça.
Groupe dans suivi d'une spécialité.
Groupe suivi d'une spécialité, ce qu'on avait vu avant. Oui. Je reviendrai bien dans la chaîne après. La différence qu'il y a, c'est quoi ? C'est que dans les autres cas, c'était deux cas qui étaient bien distincts. Qui n'avait rien à voir. D'accord ? Que deux cas qui étaient bien distincts. Dans ce cas-là, hein, la Torah te met tout d'un coup. Elle te dit un passage qui te dit, elle t'interdit toute proche parente, et après, la Torah te rajoute. Donc là, sans même arriver au concept... Non, c'est pas un souka, c'est un autre cas. Sans même arriver au concept de généralité, spécialité, détail, ensemble, etc. Sans même en arriver là, hein, tu vois, mais comme tu veux, tu peux voir Léo. Sans même en arriver là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, dès le départ, le pasouk du début n'était pas clair. Pour le comprendre, il fallait aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je l'ai mis en 12b, parce que c'est un peu comme le 12a. Dans le 12a, la Torah t'a dit ne pas voler, mais on ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Il fallait voir le contexte pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Là, le 12b, c'est la Torah te dit il faut finir le sujet pour comprendre ce que ça voulait dire. Donc, pour savoir ce que c'est une proche parente, continue le psukim, mais tu verras que la Torah te dira la mère, la sœur, etc. D'accord ? Enfin, dernier principe. Mais Bezrat Hashem, quand on verra la Gemara, le cours prochain, c'est la Gemara Rosh Hashanah. J'aurai l'occasion de repasser les principes et de vous montrer comment, des fois, on peut utiliser plusieurs principes en parallèle. Dernier principe, Vechen, pareil, il en est de même. Shner Tuvim Amachishim Zehedze. Quand on a deux versets qui se contredisent, comme on va amener un exemple tout de suite. Hachi Yavo Akatu Vashlishi Veyachi Abenem. Dans ce cas-là, il faut chercher un troisième verset qui va concilier entre ces deux versets. Donc là, je pourrais reposer la question de Dov, qui dit, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi tu me contredis deux versets pour m'amener un troisième qui fait le shalom, mais moi directement le pasouk clair? Encore une fois, c'est que la Torah, dès le départ, a été créée de manière complexe pour donner la place à la Torah chez Béalpé, pour nous donner la place à nous pour pouvoir étudier la Torah. Mais ça, je reviendrai. Je vais donner un exemple concret de deux psukim qui se contredisent. Il y a plein d'exemples dans la Torah, mais j'ai pris un exemple qui est relativement facile.
Il y a toujours un troisième.
D'accord? Donc la question qu'on se pose ici, c'est que s'est-il passé au don de la Torah?
Il y a toujours un troisième.
Il faut le chercher, mais il y a toujours un troisième. Que s'est-il passé au don de la Torah? Alors regardez bien. On a un premier passage qui te dit, ça c'est un exemple qu'amène le Harizal. Vayer Ed Hashem al Arsinai el Rosh Ahar. Dieu est descendu sur le mont Sinai, d'accord? El Rosh Ahar, en haut de la... Voilà Arsinai, es gacha pratit, mamash, hein? Il est où la pierre? Ah, vous l'avez reprise, hein?
Non, je vais aller poser.
C'est bon. Vous êtes grave pratique.
C'est étonnant, hein, quand même. Je m'expliquerai.
Alors, Vayered Adonai Alar Sinai El Rosh Ahar. Il a dit là-bas que pourquoi ça s'appelait Sinai? Parce que dans le mot Sinai, il y a le mot séné, buisson. D'accord? Donc, Vayered Adonai Alar Sinai.
Alar Azé,
exactement. Quand il avait dit Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine dernière. Donc, Vayered Adonai Alar Sinai El Rosh Ahar. Dieu est descendu sur le mont Sinai, en haut de la montagne. Vaikra Hashem le Moshe El Rosh Ahar, et Hashem a appelé Moshe Rabbeinu El Rosh Ahar, en haut de la montagne. Ça veut dire que Dieu est descendu sur le mont Sinai. D'accord? Sur le mont Sinai. Non, sur le mont Sinai, sur le haut de la montagne. Mais on a précisé que c'était sur le mont Sinai. Après, on a un autre pasouk, un peu plus tard, dans la même paracha, qui te dit, Ko Tomar El Bene Israël, Dieu parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit, ainsi tu diras au Bene Israël, Atem Reitem, vous avez vu, Ki Minashamaim Dibarti Machem. Que je vous ai parlé du ciel. C'est une contradiction, parce que tu viens de me dire que Dieu nous a parlé, Dieu a appelé Moshe, qui nous a parlé du mont Sinaï. Juste après, il dit, tu diras au Bnei Israël, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Le ciel et le mont Sinaï, c'est pas la même chose, il faut se décider. Le ciel, c'est en haut, le mont Sinaï, c'est une montagne qu'on peut définir, qu'on peut voir la montagne, on peut dire quelle hauteur elle a, c'est pas la même chose. Donc on a Shner Tuvim, Amachishim, Zehetze. Il n'y a pas d'implication à l'Afrique ici. Il y a des cas dans lesquels il y a une implication à l'Afrique, là il n'y a pas d'implication à l'Afrique. On a deux versets qui se contredisent. Alors comment on fait ? Est-ce que Dieu nous a parlé du mont Sinaï ou est-ce que Dieu nous a parlé du haut de la montagne ? Donc pour l'instant, c'est pas ces deux psukim qui se contredisent.
Du ciel.
On a donc du ciel
ou du mont Sinaï.
Du ciel ou du mont Sinaï.
Non, il est descendu, mais sinon je vais parler.
Vous voyez, dans le français, j'ai encadré.
Ouais.
Dans le premier pasuk, c'est écrit le mont Sinaï et dans l'autre, c'est écrit du haut des cieux. Donc c'est pas la même chose. C'est quoi la réponse ? La réponse va venir dans un troisième pasuk qui est venu dans la parasha Vaetranan. Qu'est-ce qu'il dit ce passage dans la paracha Vaetranan qui répète l'histoire de Har Sinaï? Il dit Mina Shamaï Mishmiacha et Kolo Liasereka. Du haut du ciel, Dieu t'a fait entendre sa voix, ici traduit pour te discipliner. D'accord? Veala Aret, c'est sur la terre, Er Acha et Ishoa Gedola. Dieu t'a montré et Ishoa Gedola, le grand feu qu'on a vu sur le mont Sinaï. Udvarav Shamata Mitocha Esh. Et les paroles d'Akadosh Baruch Hu, tu les as entendues de ce feu qui venait du haut du ciel. Ça veut dire quoi? Comment on a concilié ici? Qu'en vérité, il y a deux événements qui se sont passés. Akadosh Baruch Hu nous a parlé, effectivement, comme on a dit, du haut des cieux. Ah, pourquoi à chaque fois on parle du Har Sinaï? Parce que dans le Har Sinaï, il y avait le feu. Et qu'est-ce qui nous a impressionné? La parole qui venait d'Akadosh Baruch Hu du haut des cieux, elle passait par le feu qui était sur le Har Sinaï.
En wifi.
D'accord ? On lui fait. Donc, ça, c'est comment on a concilié entre les deux versets. Qu'en vérité, la parole d'Akadosh Baruch Hu venait du haut des cieux. Mais pour arriver par nous, elle avait une sorte de tunnel. Elle passait par un feu qu'il y avait sur leur Sinaï, et après, elle arrivait par nous. Voilà pourquoi on te dit que, d'un côté, on peut te dire qu'on a entendu la parole de Dieu qui venait de la montagne, et d'un autre côté, tu as Dieu qui dit à Moshe Rabbeinu, qui dit « Dis-leur que j'ai parlé des cieux ». Parce que nous, on a entendu la parole qui venait de la montagne, ça venait du feu de la montagne. Mais en vérité, d'où venait cette parole ? Elle venait des cieux. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu deux versets contradictoires, mais comme ce qu'a dit Léo tout à l'heure, c'est très juste ce que tu as dit, si on a deux versets contradictoires, c'est que forcément, il y a un troisième verset qui va les concilier. Là, le troisième verset, on l'a vu trois Chumashim plus tard, qui t'explique ce que ça veut dire, qui t'explique qu'en vérité, il n'y a pas de contradiction, qu'en vérité, la parole vient des cieux, mais nous, on l'a entendu de la montagne, parce qu'elle est passée par le feu de la montagne avant d'arriver vers nous. Donc là, on a un exemple, Shner Tuvim Amachishim Zeetze, deux versets qui se contredisent, Achiyavo Katuva Shlishi Vierke Abeneem, il y a un troisième verset qui est venu concilier entre les deux, et nous expliquer qu'il n'y avait pas de contradiction, c'est simplement qu'on avait mal compris. Et enfin, Yeratsam Ilfanecha Hashem Elokeinu Vokavotenu, Akadosh Baruch Hu Fasse, Sheibane Bet Amikdash Mer Avi Aminu, qu'on puisse avoir mérité la construction du Bet Amikdash, Veten Chalkeinu Betora Techa, et là on pourra accomplir réellement toutes les 613 mitzvot, parce que là maintenant, on est limité seulement à 207 mitzvot, au maximum, d'accord ? Donc Akadosh Baruch Hu Fasse, Sheibane Bet Amikdash, et là on pourra accomplir toute la Torah comme il faut. Voilà. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, un cours très intéressant. On va étudier une sugya de Gemara qui va regrouper plusieurs principes. Très très intéressant, Bezrat Hashem. Voilà.
Ce soir à Vauclin, il y a un grand cours aussi.
Ah, c'est qui ?
Il y a un rabbin qui amène pour le 200e anniversaire. Il amène quelqu'un de Toulouse, ingénieur.
Zach. Ça va, quoi, là, donc tout le monde est invité ?
20h30.
À Vauclin. Rabbi Khanam Lakashomer, à Sak, à deux jours de côté de